Sac à dos, l'émission qu'il vous faut pour parler archéo. Bienvenue sur Transistor, dans l'émission concoctée par Archéolab et les étudiants du Master Médiation du Patrimoine, de l'Histoire et des Territoires de l'Université de Rennes 2. Cette année encore, nous allons vous emmener à la découverte des patrimoines archéologiques et nous irons rencontrer ensemble tous ceux qui contribuent à les faire connaître.
Bonjour à tous, nous sommes Loli, Marion, Maëlle et Anne-Gaëlle, étudiantes à l'Université de Rennes 2 en Master 2 Médiation du Patrimoine, de l'Histoire et des Territoires. Dans le cadre d'une collaboration pour l'émission Truelle et Sac à dos, proposée par la radio associative Transistor avec notre Master, nous avons pour mission d'aller à la rencontre des professionnels de la médiation en archéologie afin de découvrir leur métier, leur structure et leur vision de la transmission auprès du grand public.
Partons donc aujourd'hui à la découverte du musée de la préhistoire de Carnac. Au cours de cet entretien, nous allons découvrir le parcours d'un professionnel de la médiation, Cyril Chéniaud. Nous avons également eu la chance de recueillir les mots de sa collègue, la médiatrice Anna Fagar, plus spécialisée auprès des tout-petits.
Donc bonjour Monsieur Cyril Chéniaud, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, ravi de vous accueillir au musée.
Donc on aurait une première question pour vous, ce serait, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours professionnel, vos études, vos expériences
Écoutez, à la fois très simple et très tortueux. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je fais des études d'histoire et d'archéologie d'abord à Poitiers puis à Tours, où j'intègre peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler, la maîtrise de sciences et techniques d'archéologie préventive de l'université de Tours. Donc ça a été 4 ans, 5 ans très intensifs. Voilà. En parallèle, comme beaucoup d'étudiants de l'époque, moi je travaillais sur des chantiers de fouilles, donc j'avais aussi un parcours de fouilleur bénévole, voilà. Puis ensuite je vais faire un DEA à Dijon, un formidable DEA qui s'appelait Heures et malheurs dans les sociétés européennes de la proto-histoire à nos jours. C'était vraiment très très vaste et ça m'a permis de toucher à la fois à l'archéologie, à l'anthropologie sociale, à l'histoire, à l'épistémologie des sciences. C'était vraiment un parcours assez formidable qui va beaucoup me servir ensuite dans mon parcours de médiation. À l'époque, il n'y avait pas du tout de formation en médiation. Hein, voilà. Donc, je vais continuer comme ça. Travailler professionnellement sur les chantiers de fouilles jusqu'en 96-97. Et pour toute une série de raisons, je vais décider d'arrêter en fait ma pratique de terrain pour me consacrer exclusivement à la médiation scientifique. Donc c'est un choix conscient, puis en même temps effectivement qui a été un petit peu qui s'est imposé à moi au fil du temps. En fait, j'ai été effaré par les fossés qu'il y avait entre la production de connaissances universitaires et puis ce qui était restitué, ce que l'on retransmettait au grand public. Et c'est vrai que j'ai toujours eu comme ça plaisir à raconter des histoires. J'ai commencé à vraiment faire de la médiation sur un monument pour lequel j'avais travaillé dans le cadre de ma maîtrise, la chapelle Sainte-Agathe à Langon, où je m'étais installé. Voilà, donc j'ai fait ça pendant de longues années. Puis ensuite, juste à côté de Langon, il y a le site des Landes de Caujou à Saint-Just. Et puis j'ai commencé à me passionner pour les architectures monumentales de la préhistoire récente. Et puis petit à petit, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de médiation à titre d'abord amateur et bénévole sur le site de Saint-Just en Ille-et-Vilaine. Et puis j'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Nature et Mégalithes, hein, qui est devenue CPIE Val-de-Vilaine, dans lequel j'ai œuvré en tant que bénévole. Ensuite j'ai été salarié de cette association et puis j'ai démissionné de cette association en 2010 pour venir au musée de préhistoire de Carnac.
Bonjour Anna Fagar, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours étudiant, professionnel, vos expériences?
Oui, bien sûr. Bonjour à toutes. On va dire que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai pas fait d'études d'archéologie, par exemple. Je me suis formée sur le tard, en reconversion, sur la médiation, la transmission. Dans mon parcours, j'ai toujours aimé raconter des histoires. J'ai été monteuse, j'ai été libraire. La transmission, c'est très important pour moi. en particulier auprès des plus petits. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et dans ma formation de guide que j'ai faite il y a 3 ans, je me suis vraiment attelée à ça, à essayer de transmettre aux plus jeunes. La médiation, c'est génial parce que c'est toujours interactif, souvent assez ludique.
Et sinon, quelle vision vraiment vous avez de votre médiation, de la médiation en général et de tout le travail que vous faites au sein du musée et quels sont vos objectifs à travers elle?
Vous avez combien d'heures pour vous répondre?
En quelques points.
En quelques points. Mais en fait, je crois que notre travail de médiation, il est très simple. Il est de créer en fait des passerelles entre les collections du musée et tous les publics qui viennent le visiter. Donc ça commence par évidemment les scolaires, de la maternelle jusqu'à l'université, ça passe par le public individuel et familial, ça passe par des groupes en fait constitués, soit en fait de gens comme ça qui sont en séjour à Carnac et qui en profitent pour visiter le musée, ou alors des groupes constitués vraiment d'amateurs de préhistoire, de passionnés de préhistoire. C'est aussi accueillir des étudiants, c'est aussi accueillir tous les chercheurs qui viennent au musée. Et voilà, et donc c'est parmi les publics, effectivement, il y a aussi tous les publics dits, je déteste ce mot, mais empêchés, donc en particulier des personnes en situation de handicap, à la fois cognitif, donc physique. C'est de nous trouver en fait toute une série de formes, de passerelles, de pratiques pour pouvoir justement faire la liaison entre les collections et ces publics, sachant que clairement on n'est pas des profs. Et ça, c'est la chose la plus importante, je crois, quand on est médiateur. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas au musée pour un cours d'archéologie. Ils sont là pour passer un bon moment. Nous, on est face à un matériau, la préhistoire, où, par définition, on n'a pas de texte. Donc c'est même la seule définition que je puisse vous donner d'une préhistoire. C'est un temps où on n'a pas besoin d'écrire. Donc personne ne nous a écrit au néolithique, au mésolithique, à la fin du paléolithique, pour nous dire ce qu'il vivait, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, ce qu'il craignait. Nous, on n'a que des objets, on n'a que des traces matérielles pour essayer de comprendre qui étaient ces femmes, ces hommes, dans quelle société ils vivaient. Sachant qu'en plus, on a un autre problème, c'est qu'il nous reste quoi, 2% en fait, de cette trace matérielle d'une époque. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc à partir de ces 2%-là, moi, il faut que je vous parle de préhistoire. C'est très simple, un exemple qu'on donne souvent, c'est je trouve une pointe de flèche en silex, une armature en silex. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'entièreté de la flèche, il manque en fait le faisceau de flèche, il manque le carquois, il manque l'arc, il manque les protections de l'archer, il manque le bonhomme qui tient tout ça, il me manque la cible. Je peux raconter des bêtises, hein. En fait, ce qui nous préoccupe plus, c'est moins en fait de donner des informations sur les objets que de permettre aux gens de se poser des questions sur ces objets. Et en fait, l'idée, c'est vraiment, et je crois que c'est une chose qui est au cœur de notre pratique de médiation scientifique, c'est d'abord de parler de la méthode scientifique. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on interroge un objet? Comment est-ce qu'on construit le questionnement sur un objet? Et en fait, souvent, il y a des gens à la fin d'une visite flash ou d'une visite un peu plus constituée ou une démonstration qui nous disent « on repart avec plus de questions qu'on a de réponses ». Et puis là, c'est là qu'on a réussi notre coup. Voilà.
Oui, donc c'est un petit peu finalement une démarche un peu différente de celle de la médiation culturelle ou l'histoire plus contemporaine.
Je pense en fait que c'est un vrai enjeu. Est-ce qu'on se substitue à un professeur? Est-ce qu'on se substitue à un instituteur? Quand on reçoit par exemple des scolaires, moi je ne vais pas en fait mettre en difficulté un instituteur qui peut éventuellement raconter des choses qui sont dans les manuels mais qui ont été largement invalidées ou qui ont été largement amendées par en fait la recherche contemporaine. Donc en fait je ne vais pas mettre en difficulté face à ses élèves un instituteur, mais par contre en fait je vais essayer de valoriser son travail effectivement. Je n'ai pas le droit, par mon discours, d'empêcher la personne qui découvre l'œuvre pour la première fois, je n'ai pas le droit de lui interdire l'émotion que moi, j'ai eue quand j'ai découvert l'œuvre la première fois. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut laisser la possibilité aux gens qui découvrent en fait un objet, qui découvrent une vitrine, de pouvoir s'émouvoir sans immédiatement lui asséner un discours. Tout simplement parce qu'il a le droit en fait d'appréhender cet objet, d'appréhender ce monument à sa manière, avec ses mots à lui, avec je peux vous donner un exemple probablement emblématique. On a la chance d'avoir à moins de 15 km d'ici le dolmen de Gavrinis. Mmh. Ça m'est arrivé quand je faisais visiter il y a quelques années le dolmen de Gavrinis avec toutes les précautions d'usage en disant effectivement vous ne touchez pas aux parois, tout ça, mais de proposer aux gens de rentrer dans le dolmen sans les accompagner. En disant, écoutez, allez-y, découvrez le monument par vous-même. Et puis, si vous en avez envie, derrière, on en discute. Et alors, évidemment, il y a des gens qui ressortaient, souvent très émus. J'ai même vu des gens sortir de Gavrinis en larmes, tellement, effectivement, le choc esthétique, le choc artistique était violent. Certains, en fait, ont gardé cette émotion-là sans aller plus, puis certains effectivement ont posé des questions. Nous médiateurs, on est là pour brosser un paysage, voilà, et puis à la manière d'un guide ou d'un conteur, c'est-à-dire que on fait rentrer effectivement le visiteur dans ce paysage mental, et puis à lui de l'explorer. Et moi ce que je dis souvent c'est, voilà, si vous voulez envie de continuer, en fait, à partir de notre ébauche de conversation, si vous avez envie de continuer à découvrir par vous-même, vous avez des livres, vous avez des ressources. Et puis là, voilà, on a la boutique du musée, et puis après, il y a... Voilà, et... En fait, l'idée, c'est d'éveiller une curiosité. On n'est pas là pour asséner en un quart d'heure ou 20 minutes un cours sur le néolithique moyen 2, quoi. C'est absolument ridicule. Et puis en plus, si on commence à jargonner, en plus, on va immédiatement perdre les gens et on va même, au contraire, c'est très méprisant, en fait, d'utiliser des mots que seule la profession est capable de maîtriser. On peut avoir, effectivement, des niveaux de discours extrêmement exigeants, mais sans jamais perdre les gens, quoi. Voilà, c'est...
Et est-ce qu'il y a un atelier, par exemple, que vous avez pu faire, dont vous pourriez décrire l'enchaînement, le déroulé un petit peu, pour voir concrètement ce que vous faites ici?
Oui, bien sûr. Par exemple, là, on a une nouveauté pendant ces vacances de février, de parures pour les petites mains. Parce que ça, c'est encore une fois, c'est important de pouvoir rendre accessible aux plus jeunes les ateliers. Donc c'est un atelier qui est ouvert à partir de 4 ans. Où les enfants vont faire et puis les familles vont plutôt aider, les adultes vont aider. Dans cet atelier, par exemple, on va utiliser la technique de perçage. Avant même de montrer la technique, on va évidemment aller devant une vitrine où il y a plein de petits coquillages percés, la vitrine de la sépulture de Teviec, hein, qui présente un très beau squelette qui est plein de littorines et de grains de café percés. Une fois qu'on a fait la visite dans le musée, on retourne dans notre salle d'atelier où les enfants aidés de nous et puis des adultes vont percer leur coquillage eux-mêmes. Vont ensuite monter la parure, c'est un bracelet. On essaye d'être au maximum préhisto-compatible, donc c'est des petits bracelets en cuir. Pour terminer l'atelier, on prépare un petit film où on va présenter différents endroits où des coquillages percés ont été trouvés, du paléo au néolithique. Aujourd'hui aussi, à la fin du petit film, il y a une vidéo de... un danseur en Afrique qui a des parures aux pieds et qui fait une danse avec plein de musique. Et puis, les enfants, on les invite à se joindre à cette personne du film pour vibrer et faire sonner leurs petites parures préhistoriques. Voilà, typiquement le genre. Donc il y a beaucoup de joie.
Côté de l'apprentissage, vous essayez aussi d'amener à votre public à avoir une sorte d'aventure sensorielle, d'amener à la curiosité. Et pour ce faire, vous utilisez quel type d'outils pour amener justement ce type de voyage?
Alors, est-ce que c'est encore à la mode? Moi, personnellement, je m'inspire énormément, en fait, de toute l'histoire et des outils développés par l'éducation populaire, en fait, depuis les années 20-30. Je pars du principe que quand je reçois un groupe ou quelqu'un et que je lui propose une séance de médiation, je garde toujours à l'idée que cette personne qui découvre un objet pour la première fois promeut plus à m'en dire avec son émotion première que moi, voilà, que moi lui en parler, quoi. Parce que peut-être que lui est capable de me parler de cet objet justement avec cette émotion première que je n'ai plus. Vous voyez, il y a un truc qui est très rigolo qu'on essaye de temps en temps, qu'on réussit pas toujours, mais quand un groupe fonctionne bien, ça peut être très marrant, c'est que ce soit les gens qui fassent la visite. On s'aperçoit à quel point les gens ont une intelligence, effectivement, en fait, mais de manière innée, puis en fait ils vont chercher plein d'émotions qu'ils ont eues à l'école, qu'ils ont, voilà, ils vont glaner, et en fait on s'aperçoit qu'on construit une intelligence collective, après à nous justement de guider les gens dans ce paysage qu'ils sont en train de créer. Je vous donne un exemple, on a la chance d'avoir des squelettes en fait de l'extrême fin du paléolithique, hein, dans cette période qu'on appelle le mésolithique, les derniers entre guillemets chasseurs-cueilleurs de l'Europe, dans les nécropoles de Teviec et Édic. Et on a un exemple de mort violente. Voilà, donc un homme, hein, qui a été tué de deux flèches, une dans la poitrine, une dans le dos. Et puis, en fait, une question toute bête, on dit, ben voilà, on constate, voilà, on a la preuve, en fait, d'une mort violente, d'un meurtre au mésolithique. Est-ce que vous avez une idée du scénario, en fait, qui amène, en fait, à la situation objective que l'on voit, à savoir une pointe de flèche dans une vertèbre lombaire? Et là, c'est absolument passionnant, parce que les gens, en fait, vont sortir d'abord, en fait, les idées reçues. Voilà, un accident de chasse. Monsieur le commissaire, j'ai nettoyé mon arc, le coup est parti tout seul. Voilà, donc... peut-être. Mais peut-être que ça peut être autre chose. Ah, une mauvaise rencontre, en fait. Il est peut-être tombé sur des brigands, en fait. Un schéma classique de meurtre au sein, en fait, d'une famille. Hein, voilà, parce que les choses n'ont pas beaucoup changé. Les violences se pratiquent principalement dans un cercle de proximité. C'est probablement déjà le cas à l'après-histoire. On peut aussi imaginer que ce monsieur avait fait une bêtise, qu'il a été jugé par ses pairs, jugé, condamné à mort, exécuté. Ou c'est peut-être une pratique religieuse, un sacrifice humain dans le cadre, en fait, d'un système de croyance. Et vous voyez, en fait, on part, en fait, d'idées reçues à la base, et puis en fait on s'aperçoit qu'on a le droit, pour l'après-histoire, en fait, de s'autoriser une forme de complexité. En fait, une forme de pensée complexe. D'accord. Et on est incapable de choisir l'un ou l'autre. Là, c'est notre socle cognitif. Mais après, c'est là qu'on introduit, en fait, la notion de parcimonie de l'hypothèse. Hein. C'est-à-dire que plus une hypothèse est économe, plus elle a des chances, effectivement, d'être recevable. Voilà. Et donc là, on est complètement dans la logique de la description et de l'emploi de la méthode scientifique.
Est-ce que vous avez une méthodologie de travail particulière propre à l'archéologie, au contraire de votre métier de médiation? Comment vous abordez choses, point de vue de la recherche jusqu'à la distribution?
Notre travail, il est très simple, c'est de lire absolument tout ce qui sort sur les sujets qui relèvent des domaines de compétences du musée, à savoir grosso modo la préhistoire récente du Grand Ouest de la France et l'ensemble des recherches sur les architectures monumentales funéraires et symboliques, en fait, de cette préhistoire récente du Grand Ouest de la France, et puis à partir de là, de la réciter au public, voilà. Et donc, ça va passer, en fait, par... Donc de la visite conférence, de moins en moins, parce qu'en fait ça rebute les gens qui sont de plus en plus habitués au format court. Et c'est là qu'on propose maintenant, puis en plus les problèmes économiques, c'est-à-dire que quand on propose, en fait, une prestation de médiation avec un surplus tarifaire, les gens ils hésitent un petit peu. Ce qui fait qu'on est arrivé à proposer, en fait, des rencontres impromptues, des conversations impromptues. C'est-à-dire que dès qu'il y a un certain nombre de personnes dans le musée, on fait un appel au micro, puis on va à la rencontre des gens, on dit, on vous propose, en fait, dans le cadre de votre billet d'entrée, une conversation. En général, les gens, ils adorent, quoi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être là, en fait, parce que, voilà, mais quand il pleut à Carnac, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que le musée. C'est pour ça qu'il faut rester très, très modeste, sur nos pratiques. Et là encore, c'est aussi une chose très importante en matière de médiation, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être extrêmement exigeant et extrêmement ambitieux, en fait, dans notre niveau de proposition. Des gens qui n'étaient pas forcément venus là, effectivement, pour pouvoir, mais simplement passer un temps ou avec les enfants, parce que les enfants parlent de préhistoire à l'école, et puis il faut, effectivement, c'est une bonne manière de... Et finalement, on s'aperçoit que les gens se passionnent très très rapidement pour des sujets qui peuvent être extrêmement pointus.
Et pour vous, quel serait l'avenir, donc, de la médiation en archéologie? Est-ce que vous avez des hypothèses là-dessus?
Eh bien, écoutez, c'est une question que je me pose tous les jours face, surtout en ce moment, à l'envahissement du paysage mental par le bullshitisme et par la désinformation, par le négationnisme historique et archéologique. On voit bien que même le fait évolutionnaire, le fait évolutionniste pose problème. Et j'en arrive à me dire que notre travail à notre corps défendant est au final de plus en plus politique. Et on se retrouve avec des situations qui sont parfois un petit peu... surtout à Carnac, qui est un endroit où beaucoup de projections fantasmatiques peuvent exister. Voilà, beaucoup de projections identitaires peuvent exister. Voilà, donc il faut savoir... slalomer, naviguer en fait sur des mers plus ou moins calmes, on va dire, d'un point de vue. Voilà.
Si vous avez possibilité d'exaucer un souhait en tant que médiateur, ce serait quoi votre rêve idéal dans votre métier ?
Mon rêve en tant que médiateur, c'est un rêve d'accueil de tous les publics, c'est-à-dire un travail sur l'accessibilité, faire en sorte que tous les publics puissent être accueillis.
Savoir comment s'appeler la personne enterrée toute seule dans le tumulus Saint-Michel il y a 6500 ans.
Très précis, bref.
Au milieu du 46e siècle, ou pouvoir appeler la dame de Teviec le squelette qu'on présente par son petit prénom. En fait, je le dis souvent, en fait, pour un archéologue préhistorien, l'objet c'est une tannée, en fait, parce que nous on n'a que ça. Voilà. Et en fait, nous ce qui nous intéresse, c'est pas les objets, c'est les gens qui sont cachés derrière l'objet, en fait, qui ont façonné, qui ont utilisé, qui ont abandonné, qui ont redécouvert l'objet, parce que aussi ça fait partie de ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les femmes et les hommes cachés derrière les objets, les sociétés dans lesquelles vivaient ces femmes et ces hommes. Est-ce que la trace archéologique nous permet d'accéder à la réalité sociale dans toute sa complexité ? Et il est tout à fait évident que non.
Pour vous, le musée de la préhistoire à Carnac, ça représente quelque chose en particulier ? Est-ce que c'est...
Moi, je dis souvent que pour découvrir Carnac, il y a deux manières. Il y a la magie des lieux. Voilà, ça, c'est le tumulus, c'est les aliments, c'est les dolmens perdus au milieu de la langue. Il y a le musée qui est le lieu de la prise de recul, de la distanciation. Voilà. Et il y a deux manières d'aborder en fait, les monuments mégalithiques et en fait, les architectures monumentales à Carnac. C'est soit on commence par le musée, soit on commence par les monuments. Et l'approche, c'est absolument complémentaire. Et puis, le musée de Carnac, c'est quand même une des plus riches collections de préhistoire d'Europe. Quoi. C'est important de pouvoir en fait, la transmettre, la conserver dans les meilleures conditions, et puis de permettre aux gens de la découvrir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de travailler d'arrache-pied sur le futur musée de Carnac, qui va normalement sortir de terre dans les 2-3 ans qui viennent. Là, ça fait des années qu'on y travaille, et ça, là, voilà, le projet est sorti, le projet est parti, et on aura la chance, dans 2-3 ans, d'avoir un musée deux fois plus grand qu'il n'est actuellement, avec des réserves dignes de ce nom, qui pourra, à la hauteur en fait, des collections du musée, et puis de l'ambition aussi de la communauté des Carnacois de faire inscrire par l'UNESCO en fait, les architectures monumentales, funéraires et symboliques du Morbihan Sud au titre de patrimoine mondial. Voilà. Ces monuments dits mégalithiques, hein, voilà, de cette période qu'on appelle le néolithique. Voilà. Et donc, en fait, d'offrir en fait, aux gens qui viennent à Carnac un musée d'envergure européenne. Hein, voilà, en fait, à la hauteur de cette ambition d'un classement UNESCO. Ouais, c'est quand même pas une mince affaire.
Merci beaucoup.
Non, mais c'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup à Cyril Chéniaud et Anna Fagard de nous avoir reçus au musée de la préhistoire de Carnac et de nous avoir accordé ce moment d'entretien. À bientôt pour un nouvel épisode de Truelle et Sac à dos.